Mon message s'intitule « De la générosité à l'annonce ». Et on est le dimanche 11 août, n'est-ce pas, 2019. De la générosité à l'annonce. Et on va voir un texte sur lequel je m'appuie, qui se trouve dans Romains chapitre 10. Mais avant ça, je vous montre une image qui parle de générosité, en tout cas à mes yeux. C'est une cuisine italienne apparemment, avec pizza, pâtes, du vin... Et voilà, salade, etc. C'est d'après mon médecin, c'est le meilleur régime, le régime méditerranéen, hein, si jamais, pour au niveau de la santé. Il paraît que ceux qui vivent le plus vieux et en bonne santé, c'est les Crétois et autour de la Méditerranée. Voilà. Mais tout ça pour parler de générosité ce soir, et bien sûr de générosité de Dieu. Dieu est un Dieu généreux, il se qualifie comme cela, et on dit de lui, pour ceux qui le connaissent, que Dieu est généreux. Jésus lui-même, quand il parle de son Père, il parle beaucoup avec générosité de ses qualités. Prenez toutes ces paraboles, par exemple celle dite du fils prodigue, où en fait les fils sont invités, les deux, à venir à la maison pour un festin, pour se réjouir de l'abondance. Voilà, et tout le monde est invité dans la maison de Dieu. Et on va voir un texte donc, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, qui parle de cette générosité divine et aussi de la responsabilité qui en découle. Qui est la nôtre ? Générosité. Donc c'est Romains 10, versets 12 à 15. Romains, ce passage, juste pour le situer, eh bien, c'est déjà l'Épître aux Romains, donc elle est écrite par Paul et quelqu'un d'autre avec lui, qui est à Rome. Lui, Paul n'est pas à Rome, en tout cas pas encore, mais il écrit là à ces chrétiens de Rome. Il n'est jamais allé dans cette église, cette grande église, mais il connaît beaucoup de gens qui y sont allés. Puisque à l'époque, à Rome, il y avait beaucoup de migrations, beaucoup, ça bougeait beaucoup. Donc c'était le centre de l'Empire romain à ce moment-là. Et beaucoup de gens étaient partis, soit d'Israël, soit d'ailleurs, des chrétiens s'étaient retrouvés ensemble, voilà, à Rome. Et puis Paul, quand il leur écrit, eh bien, c'est très général dans les premiers chapitres où Paul parle de l'amour de Dieu, de l'Évangile. Il y a ces fameux versets dans Romains chapitre 3 où il est montrer que tout homme, toute femme dans ce monde est privé de Dieu. Romains 3, vous pouvez prendre Romains 3, puis vous avez le plan du salut et du pardon de Dieu qui est décrit là, Romains 3, 23, qui nous parle du salut qui est gratuit. Voilà, tout ça, cette description. Romains 4, c'est par la foi, on marche par la foi. Et puis voilà, gentiment, on arrive à Romains 9, 10 et 11, qui parle du plan de Dieu par rapport au peuple élu, à Israël, que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais il se trouve que voilà, le peuple, dans son ensemble, pas tous, mais dans son ensemble, a choisi d'obéir à la loi, d'être propre juste avec cette loi, de dire à Dieu quelque part, « Bah, t'as vu, nous on est nickel, on obéit à toute la loi. » Dieu leur fait un clin d'œil en disant « Faites-moi voir, avec tous les 613 commandements, combien c'est difficile. » Voilà, puis on arrive en fait à cette compréhension du plan de Dieu qui a un endurcissement partiel d'Israël, ou un aveuglement, ou en tout cas une non-compréhension de l'Évangile et de sa gratuité. Et Romains 10, il y a ce passage qu'on va voir qui est extraordinaire, qui nous montre cette générosité de Dieu, pas seulement pour les Juifs, mais pour tous. J'espère qu'il y en a ce soir qui sont heureux de dire « Ah oui, Dieu aime pas seulement les Juifs, mais il aime aussi ceux qui sont non-Juifs ». Alors, verset 12... Voyons ça ensemble. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Générosité pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est une promesse qui est extraordinaire. Tu fais appel à Dieu, le salut se met en route pour ta vie. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler, dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé, comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Vous avez certainement ou peut-être déjà entendu parler de ce texte et de ces quatre questions qui sont là, qui sont il y a une progression dans ces questions, et on va voir ça ensemble dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, rappelons-nous un petit peu la gratuité ou la générosité de Dieu et la gratuité de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est gratuite. L'évangile, bonne nouvelle, elle est pour tous. J'espère que vous êtes avec moi heureux. Comme se dit ce texte ici, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif. L'évangile est pour tous. Il y a deux catégories, on pourrait dire ça comme ça, devant Dieu, deux peuples. Il y a les juifs et il y a les non-juifs. Il a aimé d'abord Israël. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques endurcissements, quelques réticences d'Israël. Et en attendant, eh bien, Dieu dit aux nations, « Allez-y, rentrez dans mon royaume. » On était au 1er août, un bel endroit dans le canton de Vaud. Il y a une rivière, et quand il y a une rivière, il y a des garçons qui font des barrages, n'est-ce pas ? Il y a des jeunes qui étaient là dans cette rivière. Et puis, je vois un de ces garçons qui... En fait, qui essaye de retenir l'eau. Pas possible de retenir l'eau d'une rivière. Hein. On met la main et puis l'eau se débrouille toujours pour passer. Moi, j'ai un peu l'impression que, en fait, il y a Israël qui pousse un petit peu, mais pas suffisamment. Que Dieu met sa main et qui dit aux nations, mais allez-y, coulez, hein, prenez l'évangile. Puis Israël, il va enlever sa main bientôt. Mais ceux d'Israël qui veulent connaître le salut, ben c'est encore possible. Donc l'eau passe un peu, c'est Israël. Voilà une image qui vaut ce qu'elle vaut. Vous la comprenez, j'espère. La bonne nouvelle est pour tous, juifs et non-juifs, même si Jésus a d'abord annoncé son message à Israël. C'était sa mission première, mais ensuite il a envoyé ses disciples pour annoncer son message. C'est quoi cette bonne nouvelle ? Petit rappel, piqûre de rappel ce soir. Elle consiste à annoncer le fait que le royaume de Dieu est disponible. C'est comme sur le magasin ou la devanture, la personne qui tient le magasin, elle tourne la pancarte, ouvert, n'est-ce pas ? Voilà, maintenant le royaume de Dieu, pour toi, pour qui veut rentrer, est ouvert. L'heure d'ouverture, c'est bon. Est disponible pour chacun, bien sûr, au travers de Jésus-Christ. La porte, c'est Jésus. On passe par cette porte et on entre dans le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, les choses étant similaires dans l'évangile. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, tu peux rentrer, tu peux venir à Dieu. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est formidable cette promesse. Hein. Toute personne qu'on va croiser tout à l'heure dans la rue, ou toi ou moi, eh bien, on peut dire oui, Jésus, Dieu, ne va jamais nous rejeter. Il n'y a pas d'esprit de rejet en Dieu pour dire, voilà, toi je ne te veux pas, toi oui. Non, c'est vraiment un accueil inconditionnel tant qu'on est sur cette terre. Après quoi, il y a le jugement, hein, on est d'accord. Mais tant qu'on est sur cette terre, il y a un accueil inconditionnel. Ce verset 12 donc, nous parle de la générosité de Dieu. Ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Faire appel à Dieu. Ça, c'est la photo qui était prise en face de chez moi. Il y a des abeilles, je ne sais pas si vous les voyez là, c'est trop beau. Hein, il y avait... Maintenant, ils piquent un peu du nez, les tournesols, mais... Oui ? Oui, si tu veux, bah, interprète ça comme tu veux. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très beau, cette générosité, cette abondance. Voilà, qui m'inspire et qui me pousse à louer Dieu. Verset 12, donc on voit que Dieu est un Père qui ne fait pas de différence. Et par rapport à Israël, verset 21, et prenons ça pour nos familles, nos amis, ceux qu'on aimerait voir sauvés. Au verset 21, il est dit au sujet d'Israël, il dit, « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains. » En fait, Dieu tend ses mains. À toute personne qui ne le connaît pas, il y en a là ou pas ? La voiture là-bas, le conducteur, il tend les mains. Il tend les mains par différentes situations. Peut-être il les protège d'un accident, ils échappent à la mort. Il tend les mains par ton témoignage de vie, parce que tu es son voisin. Il tend les mains par plein de choses qui sont là. Dieu est tellement diverse. Il m'a tendu les mains, puis à un moment donné, j'ai saisi l'opportunité, j'ai saisi cette main qui m'était tendue. Et une fois que tu as pris la main de Dieu, alors il te prend dans les bras. Comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15, et il dit « Viens » ou « Bienvenue » dans ta maison, bienvenue à la maison. Mais en attendant, il tend les mains. Il tend les mains à Israël, il tend les mains à tout le monde, et puis tous ceux qui veulent saisir ce message, la bonne nouvelle, alors ils sont bien accueillis dans la maison de Dieu. Il tend les mains pour nos familles qui ont besoin du salut. Alors Seigneur, continue ton œuvre ici à Genève et dans notre région. Luc chapitre 14, verset 16, c'est cette parabole du festin. Il y a une invitation qui est donnée. Alors, tout à l'heure, tu parlais de famine. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'image du festin dans la maison de Dieu. Justement, au 1er août, là, on était au brunch. Dans une ferme. Peut-être vous avez fait ça cette année. Dans une ferme, il était tellement en abondance. Il y avait de la viande séchée. Un an plus finir, des fromages. Tous aussi bons les uns que les autres. Des desserts. Je ne vous dis pas les desserts. Extraordinaire, voilà. On sait recevoir là-bas. Et bien, dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Alors, Luc 14, verset 16. Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. Donc, ça, c'est Dieu. Il invite. Dieu t'invite. Un grand festin, il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du festin, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. » 5 fois 2, 10. « Je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Tu peux mettre ce que tu veux là. J'ai acheté 5 Harley, j'ai acheté 5 Ferrari, 5 Tesla, 5 je ne sais pas quoi. Je dois les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Bien sûr, tout ça, c'est des excuses. Verset 20, un autre dit, je viens me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Ça se comprend. Mais bon, à son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places. Chez nous, et dans les rues et de la ville, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Quel dommage, hein ? Dieu invite tout le monde. Dieu invite par son Église. Dieu invite par le témoignage de l'Évangile. Dieu invite. Il y a de la place encore dans la maison du Père parce que Dieu est généreux. Dieu est généreux. Et peut-être ce soir, il y a besoin d'un petit peu plus de pardon. Alors va au buffet. Prends ce pardon, peut-être y a-t-il besoin d'oubli, oui, de ton passé. Quand je regarde à mon passé, je peux m'écraser, mais Dieu m'a fait grâce, alors je prends à la table qui est dressée, je prends la grâce et je dis oui, Dieu a oublié mes fautes, et je prends le sang de Christ pour laver mes péchés et me rendre plus pur qu'aucun blanchisseur ne peut faire, qu'aucune laverie ne peut faire ici-bas, etc. Dieu est généreux et il fait grâce. Un cœur généreux. La preuve, c'est qu'il fait pleuvoir sur tout le monde. Hein? Bon et méchant, on reçoit tous la pluie ou le soleil. Et puis, sa maison est un lieu de fête. Je ne peux pas concevoir le royaume de Dieu, le royaume des cieux, autrement que par un lieu de fête. Un lieu de fête qui se prépare en ce moment. Les anges tissent les nappes, les anges dressent les tables pour les noces de l'agneau qui s'approchent, et on va tous ensemble fêter ces noces un jour. Ça sera tellement glorieux, on sera éblouis, comme on l'a chanté, par l'éclat de Dieu. Il n'y aura plus de lumière électrique dans le royaume de Dieu et dans la Nouvelle Jérusalem. Seule la présence de Dieu contentera tout le monde de sa lumière merveilleuse. Voilà, ce jour approche, et on veut dire à tous ceux qui sont autour de nous, t'es invité. Alors viens et rentre dans la générosité de ton Père, viens. Et vous avez peut-être remarqué dans ce verset, Dieu est généreux quand on l'appelle, quand on fait appel à lui, quiconque. L'Évangile est pour tous et il est personnel. Quiconque fera appel, donc c'est le verset 13. Ah non, je suis romain là, ça ne va pas le faire. Voilà, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au Seigneur, au nom du Seigneur, sera sauvée. Quelle promesse merveilleuse! On va la prendre ce soir. Vous pouvez d'accord répéter après moi à haute voix. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. En fait, c'est notre responsabilité, ou c'est leur responsabilité, de faire appel au Seigneur. On aimerait des fois pouvoir accueillir le salut pour tous, mais on ne peut pas le faire. C'est personnel. Et béni soit le jour, on peut dire à quelqu'un, tu sais, c'est ta responsabilité. Toi-même, tu peux faire appel au nom du Seigneur. J'ai appris par cœur cette promesse, je te l'ai dit. Fais appel au Seigneur et, conséquence, tu seras sauvé. Et à la fin de la phrase de la personne, on peut lui dire, tu sais, tu peux être assuré maintenant, tu es sauvé. Tout peut s'écrouler. Ta maison peut s'écrouler, tout comme Job. Eh bien, peu importe, tu es sauvé. Amen. Quelle belle promesse extraordinaire, basée sur la générosité et la croix de Jésus-Christ. Une promesse de salut complet, total. Dieu donne son salut. Mais c'est à chacun de faire appel au Seigneur. Voilà, faire appel à lui, car le salut n'est pas automatique. Certaines églises prêche ça, annonce ça, un salut automatique et universel. Dieu est bon, tout le monde ira au paradis, peut-être quelques-uns au purgatoire en attendant de se racheter. Mais non, non, l'évangile est clair. Il y a un salut et chacun, au travers de Jésus-Christ, doit faire appel, recevoir la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ par la foi. Un prédicateur que j'aime beaucoup, on l'appelle le prince des prédicateurs, a dit ceci. Charles Spurgeon, quelle grâce d'avoir la liberté d'invoquer Dieu. C'est une grâce d'avoir cette liberté d'invoquer Dieu, de faire appel à Dieu. Et il complète en disant, quelle sagesse d'en faire bon usage. Voilà, on a la liberté d'invoquer Dieu. Et Spurgeon dit, lui qui est venu à l'église libre, je ne sais pas si vous savez, il est venu à Léger, il a prêché à l'oratoire, et à la cathédrale, et il dit quelle sagesse d'en faire bon usage. Alors on peut dire à nos voisins, nos voisines, notre famille, tu sais, tu peux toi-même faire appel à Dieu, tu feras un bon usage de la prière. Des fois les gens nous disent, ouais, mais si Dieu existait, voilà, enfin, vous connaissez le refrain, mais il faut leur dire, mais écoute, est-ce que tu as appelé Dieu? Est-ce que tu as fait appel à lui? Si tu ne le veux pas dans ta vie, il ne va pas intervenir. C'est la logique, plus simple. Que ça, tu peux pas. Voilà, mais Dieu se révèle à ceux qui ne le cherchent pas aussi. La nécessité, donc on a vu dans un premier temps la générosité divine, qui est notre responsabilité, la responsabilité qui en découle, une fois qu'on l'expérimente, eh bien c'est de l'annoncer, d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a quatre questions dans ce texte, qui commencent par comment. Comment feront-ils appel ? Comment croiront-ils? Comment entendront-ils? Comment l'annoncera-t-on? Quatre questions qui appellent une réponse ce soir à Dieu, en tant que communauté, Église. Quatre questions qui sont lancées. Je vous les relis parce que là, j'ai fait la version courte. C'est à partir du verset 14. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Et en fait, dans ce texte, il y a une progression comme ça. Comment faire appel? Comment vont-ils faire appel? Croire? Croire, mais il faut d'abord entendre parler. Comment entendre parler? Il faut que quelqu'un l'annonce. Et comment l'annoncer? Il faut des envoyés. Progression. Alors, regardons un petit peu ça. Une personne qui entend l'évangile, par exemple, t'annonces l'évangile à quelqu'un. Eh bien, ce qu'on aimerait d'elle, c'est que, c'est sa responsabilité, c'est qu'elle fasse appel à Dieu. Vas-y, si tu veux, je t'accompagne, mais c'est ta responsabilité, tu vas faire appel à Dieu. Avant qu'elle fasse appel à Dieu, il faut s'assurer qu'elle ait la foi, qu'elle croit. Crois-tu ? Hein, Philippe qui dit à l'eunuque éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis? Crois-tu ?» Hein, il y a cette question sous-jacente qui est là. Donc, elle doit faire appel à Dieu. Avant ça, elle doit croire. Pas la peine de faire appel si elle ne croit pas. Hein, s'il y a une incrédulité, ce n'est pas la peine. On va attendre. Avant ça, eh bien, elle doit entendre, ou alors dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire comprendre l'Évangile. Comprends-tu? Comprenez-vous que Dieu a envoyé son Fils? Ah non, je ne comprends pas, là, certains, ça bute là-dessus. Mais comprends qu'il a donné l'agneau de Dieu. Il est venu pour ça. Voilà, comprends-tu cela? Avec ton intelligence et avec ton cœur. Et puis avant cela, eh bien, bien sûr, nous avons annoncé le message de l'Évangile. Alors, on va enlever les flèches. Là, je me suis amusé quand même. Et puis, on va les mettre dans le bon sens. Donc, je prends le sens inverse du texte. D'abord, une annonce de l'Évangile. Ensuite, la personne entend. Ça rentre dans ses oreilles, ça descend dans son cœur. Elle va croire. Après quoi, elle va faire appel elle-même au Seigneur. Moi, je peux prier avec toi, mais c'est à toi à faire appel au Seigneur. On a tous, à un moment donné ou à un autre, entendu l'Évangile, enfin l'annonce de l'Évangile, on l'a entendu, on l'a cru, et on a fait appel au Seigneur. Si quelqu'un ce soir n'a pas encore fait appel au Seigneur, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. Il y a bien, bien des années, avant Internet, avant les feuilles d'avis officielles, avant l'impression même, il y avait ce qu'on appelle le héros, pas le héros, le champion, mais le héros, celui qui claironne l'annonce officielle. Et il fallait se taire pour écouter ce que les officiels avaient à dire, et on disait « Oyez, oyez, hein, écoutez, bonnes gens, faites silence pour écouter le héros. » Alors dans ce monde où il y a tellement de religions, tellement de voix, tellement de gens qui proclament qu'ils ont raison et qu'ils sont convaincus de l'être, eh bien, il faut faire silence. Et je pense que le défi de Dieu, en 2019, et pour nous, bien sûr, pour son Église, c'est d'entendre l'Évangile ou d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu entends? Oui, je connais. Non, mais est-ce que tu entends? La Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Il y a vraiment un défi par rapport à ça. On se doit de prier pour que les oreilles s'ouvrent, pour que nos oreilles et les oreilles du monde entier entendent ce que Dieu a à dire. Alors, premier point, annoncer clairement le salut. Et ce qui est génial, on n'a pas besoin de faire du témoignage, mais on est des témoins. C'est un peu ce que je réalise ces derniers temps. On est, verbe être, des témoins. On n'a pas besoin de se forcer à témoigner, mais on est des témoins. Et puis, avec Denis, cette semaine, il me partageait une chose intéressante, tu permets que je le dise, c'est que, en fait, en tant que chrétien, on doit aimer communiquer. On doit aimer communiquer. Et c'est vrai que si on parle, on a peut-être tous des hobbies, voire des passions qui sont là, eh bien, on en parle plus facilement, on en parle facilement, puis on a envie que, simplement, de partager notre envie. Et l'Évangile, voilà, doit pouvoir se partager, pas parce qu'on nous le dit, pas parce qu'on dit maintenant, de telle heure à telle heure, tu vas faire du porte-à-porte, mais parce que ça jaillit de nous, simplement. Tu sais, ce matin, j'ai vécu ça avec Dieu, avec le collègue de travail, il m'a parlé, il m'a dit telle chose, il m'a donné une promesse, mes enfants ont été bénis, etc. Voilà, tout simplement. Et en fait, moi, j'étais dans une fausse attente où je voulais absolument que la personne, non seulement elle entende, elle écoute, elle comprenne, mais que tout de suite, elle vive la vie chrétienne, instantanément. Eh bien, ce n'est pas comme ça, en tout cas pas chez nous, pas directement. Ça peut arriver, moi j'ai vécu ça pour moi, mais ce n'est pas forcément courant. Donc, voilà, mais parler simplement, annoncer clairement ce message de la bonne nouvelle. Et c'est notre privilège, n'est-ce pas? Alors soyez délivrés, déliés de l'obligation de témoigner, et on est des témoins. On est sel de la terre, on est lumière du monde, on éclaire et on donne du bon goût. Ton voisin a mauvais goût, s'il ne connaît pas Jésus, c'est fade spirituellement. Hein. On les aime tout plein, bien sûr, mais c'est fade. Mais le sel, c'est un exhausteur de goût, je crois on dit ça comme ça, hein. Ça révèle les ingrédients et la nourriture. Pas trop, mais ce qu'il faut pour donner bon goût. Et c'est ça qui est génial, qui est passionnant. Alors, c'est cette question. Donc, on prend le texte à l'envers, verset 15. La dernière question, comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comment l'annoncera-t-on? Considérons-nous comme envoyés, simplement, là où on est, dans ce qu'on est, que tu penses ou pas à Dieu, que tu pries ou pas, eh ben on est des envoyés et on est ses représentants, même ambassadeurs, et c'est une belle fonction. Quels sont les moyens que Dieu nous donne? C'est tout simple, c'est notre vie, notre parole aussi, bien sûr, et puis notre témoignage, ce qu'on vit avec Christ, et nos propos, nos paroles, paroles de vie. On peut faire cette prière, c'est une bonne prière, Seigneur, donne-moi des paroles de vie. Donne-moi des paroles et que ma vie puisse témoigner. Voilà, avant je buvais 5 bières d'affilée, maintenant j'en prends plus qu'une. C'est un témoignage ça aussi. Hein. Avant, j'étais dans telle disposition. Ah, mais tu viens plus avec nous, t'es devenu ennuyeux. Comment, moi ennuyeux si tu savais. La vie bouillonne en moi, j'ai une vie qui est là, j'aimerais te la donner. J'aimerais être là. Un jour, il y a un copain qui m'a dit, quand je t'ai converti, il ne savait pas, hein, parce que je suis converti pendant l'été, découverte de Christ et de l'Évangile. Puis avant la rentrée, on se téléphone. Et puis, je lui ai dit, tu sais, il y a un truc extraordinaire qui m'est arrivé cet été. Et puis, il me répond comme ça, ah mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Dieu. Tu as découvert quelque chose. Il n'était pas chrétien, hein, mais il a senti dans ce que j'avais dit. C'était un homonyme, il s'appelait Laurent. Il me dit, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Complètement dingue, hein, Saint-Esprit qui précédait. Donc c'était super, quoi. Et je bénis Dieu pour ça. Voilà, on est sel de la terre, on est lumière du monde, sans se forcer, mais c'est ce qu'on est. C'est dans nos cœurs et c'est une réalité. Entre parenthèses, Paul, il faisait une chose intéressante, il le dit dans ce même chapitre. Il essayait de provoquer la jalousie des autres, des juifs, de ses compatriotes. C'était un moyen d'évangélisation par la jalousie. Nouveau moyen, c'est dingue, nouveau moyen, allez, il y a plus que vie, parole et témoignage, faire envie aux autres. Mais comment tu fais? On vient d'avoir une mauvaise nouvelle, puis t'es en paix. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ton secret. Tu fais du yoga, tu fais du... Dis-moi ton secret. Non, je ne fais pas ça. Je n'aime pas ça. Hein, tu fais de la voyance, tu connais ton avenir. Oui, mais et non. Je vois clair. Voilà. Mais faisons envie, suscitons l'envie, n'est-ce pas? Plutôt des fois d'être direct. En tout cas, Paul, il faisait ça pour les Juifs. Il essayait de les provoquer et de leur faire envie. C'est comme ça que Stephen Page s'est converti, c'est intéressant. Celui qui est responsable de Juifs pour Jésus. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, témoin. Jésus dit, Matthieu 5, « Vous êtes le sel de la terre ». On est le sel de la terre. Voilà, c'est une réalité. Merci Seigneur. Alors je vous propose un défi, 4 défis ce soir. Donc il y a 4 questions, 4 défis. Premier défi, prenez ce que vous voulez, ou 2, ou 3, ou 4 en même temps, à vous de voir. Tout simple, demandez à Dieu, cette semaine, d'annoncer simplement son salut. Demandez au Seigneur une ouverture, une situation, une possibilité, peut-être même 30 secondes, voilà, d'annoncer le salut à un collègue, un ami, et il va le faire, une situation. Si vous êtes courageux, vous demandez 2 situations. Puis après, Dieu, je ne te demande pas 2, mais 3, etc., comme les vendeurs. Vous marchandez avec Dieu. Parce que c'est lui qui ouvre, qui donne des possibilités. On est quand même dans un monde qui est entouré de ténèbres, et on veut lui demander donc, ces possibilités-là. Donc, retenez la chose, on reverra à la fin, mais retenez quand même le premier défi. Avec cette question, comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Seigneur, voilà, envoie-moi où je suis. Deuxième chose, notre gros défi, je trouve, dans ce monde d'aujourd'hui, écoute attentive de l'Évangile. Écoute attentive de l'Évangile. Voilà, c'est pas méprisant cette photo, mais parfois il faut que, non seulement que les oreilles se débouchent, mais qu'on augmente le volume. On était frappé avec Audrey, hier on était au feu d'artifice à la rade, on était au quai Gustave Adore, là on s'est assis sur le trottoir, et puis le spectacle commence et tout, ça pétarade, magnifique, moi j'aime bien ça, je suis un peu comme un gamin, je suis émerveillé face à toutes ces couleurs là, et puis il y a des râleurs évidemment, il y en a qui disent ouais ça coûte trop cher, tout ça. Ça m'énerve un peu ça, mais bon, bref, c'est perso. Mais il y a une chose qui nous a frappé les deux, on se l'a dit ce matin, c'est que pendant le spectacle, il y a plein de gens qui ne regardaient pas, puis qui passaient, qui filent, on ne sait pas où ils vont, mais ils filent entre le jardin anglais et tout Gustave Adore, là. Je me dis, mais ils vont où? Mais regardez, là, un téléphone, un, je ne sais pas à qui, enfin bref, c'était frappant quand même, hein. Mais il y a un truc qui est magnifique là devant tes yeux, c'est gratuit, regarde quoi, j'avais envie de dire ça. Alors il y a une chose qui les a stoppés, et ben, c'était le bouquet final, juste avant l'annonce, et puis là tout le monde était scotché quand même, hein. Et c'était tellement magnifique et en rythme et beau. Ah là voilà, alors peut-être que Dieu ne se fait pas assez entendre dans ce monde d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a tellement de voix où les gens sont entre guillemets vaccinés ou pas attentifs, et bien nous, de parler suffisamment fort. À nous de, oui, d'être porte-parole de la voix de Dieu dans ce monde où il y a beaucoup de voix. Alors vous allez dire, comment faut faire? Alors là, moi j'ai un défi à vous proposer. Donc comment entendront-ils? Verset 14, on va lire quand même ce verset. C'est la deuxième partie. La dernière partie. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment ils vont entendre les gens si personne n'annonce? Alors il va falloir parler fort, plus fort en tout cas, dans un monde de saturation vocale, je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais je vous propose un deuxième défi. Le premier, c'était de demander à Dieu la possibilité dans ces jours d'annoncer son salut ou de témoigner. Et le deuxième que je vous propose, c'est demander au Saint-Esprit qu'il ouvre l'intelligence de quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un à cœur, vous allez rencontrer. Saint-Esprit ouvre son intelligence. Dans 2 Corinthiens 4, 4, il est dit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, que le diable y voile l'intelligence comme ça. Et la personne peut faire mine de comprendre, mais dans son cœur, ça ne passe pas. Il y a comme un voile qui est là. Alors on peut demander au Saint-Esprit, ouvre, comme cet eunuque éthiopien dans sa voiture qui est rejoint par Philippe. Vous êtes des Philippe, je suis un Philippe. Et la parole de Dieu va être là. Tout d'un coup, son cœur s'ouvre. Ce n'est pas notre forcing, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est le deuxième défi que je vous propose. Seigneur, cette semaine, ouvre l'intelligence, la mienne, mais celle d'autres aussi, et que je puisse entendre, que cette personne aussi puisse entendre avec moi. Ça, c'est le deuxième défi que je vous propose. Quand on annonce l'Évangile, quand il y a une écoute attentive, alors, d'après nos questions ici, il y a une foi qui doit devenir active. Activer sa foi. Alors, j'ai mis un cuisinier, là. Il est censé inspirer confiance. Je vais cuisiner quelque chose de bon. Tu vas voir. On doit inspirer confiance. Dieu, en tout cas, est digne de confiance. Dieu a des promesses excellentes, extraordinaires, et il est digne de confiance. Il les exauce pour nos vies. Il les met en route pour nos vies. Alors l'autre question, la troisième question qui nous est posée, verset 14, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils? L'importance de la foi. Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. L'annonce de l'Évangile est faite et la foi, elle est là. Est-ce que je peux être sauvé? Quand tu donnes ton témoignage, ça doit susciter la foi. Tu sais, moi ça m'est arrivé. Et la personne peut dire, ah oui, mais moi j'aimerais bien que ça m'arrive. C'est le fameux évangéliste, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80-90, qui s'appelait Costader, il est décédé maintenant. Costader, en fait, sa vie a été changée radicalement, bouleversée par Dieu, suite à sa prière, changée de vie, il était venu à Genève, là. Et puis sa mère, voyant ce qui se passait dans son fils, elle a fait cette prière avec ces mots toutes simples, c'était génial, elle a dit... Dieu, ce que mon fils il a, je le veux aussi. Faire envie. Dieu, ce que cette personne a, moi ça m'a fait un peu pareil, je veux recevoir ça, je veux le vivre. Faire envie, et c'est ça la foi, tout simplement. Alors ce sera peut-être pas avec des mots religieux, les mots bibliques, mais quand une personne s'ouvre et est en confiance, eh bien on voit qu'il y a la foi qui est là. L'importance de la foi, c'est bien sûr toute la révélation à nouveau de la réforme. Troisième défi que je te propose ce soir. Le premier, c'était donc prier pour avoir une occasion. Le deuxième, que l'intelligence s'ouvre. Le troisième, prendre position personnellement face à l'inquiétude collective et déclarer sa foi. Alors ça, c'est peut-être le point au-dessus. On n'y est pas encore, mais vers l'automne, nos médias, nos médecins, etc. vont gentiment nous dire « la grippe arrive, faites-vous vacciner, etc. etc. » Voilà. Connaissez ce discours qui n'est pas le plus enthousiasmant que les médias peuvent dire. Bref, alors là, à ce moment-là, on pourra peut-être prendre position. Si quelqu'un nous dit, tu sais, il faudra te faire vacciner, il y a la grippe qui arrive. Peut-être, c'est une suggestion que je vous fais, je dis, prenons position et dites, tu sais, moi je ne vais pas me faire vacciner, enfin c'est ma conviction, mais je te propose, je vais prier pour ça, pour ne pas être malade, et si tu veux, je prie avec toi pour ne pas que tu sois malade, pas que tu sois atteint par la grippe. Prendre position, ça demande un peu de courage, mais c'est pas, en retour, on va peut-être être moqué, on s'en fiche, mais ce n'est pas une position morale en disant « moi, je ne crois pas et je suis contre telle ou telle chose ». Non, c'est une déclaration de foi, dire « écoute, moi, je vais prier, Dieu, il est bon, Dieu, il entend ma prière et je vais le faire pour moi ou pour ma famille ou pour toi, si tu es d'accord, et on va voir que Dieu, il va te protéger et te garder ». Ça, c'est un défi qui peut ouvrir, c'est vrai, la foi de quelqu'un d'autre et faire quelque chose de nouveau et une transformation dans une vie. Ça peut être un autre défi, prenez ce que vous voulez. Mais voilà, osons être clairs dans notre foi. On n'a pas besoin de, ouais, on n'a pas besoin de dire comme les autres. On n'a pas besoin de faire comme les autres. On est chrétien, on est différent, on est évangélique. Si vous l'êtes, ben voilà, c'est comme ça. On croit en un Dieu qui est créateur et qui est protecteur, même de virus et de maladies. Amen. Donc ça, c'est le troisième défi que je vous propose. Quatrième, faire appel. Je ne me suis pas trompé de photo. Vous savez que les vidéos qui marchent le mieux sur Internet, c'est les vidéos de chats. J'avais un truc comme ça. Donc si tu veux, si tu as une chaîne YouTube, tu veux faire le buzz, tu filmes ton chat en train de faire des bêtises, ça va marcher à tous les coups, tu verras. Alors pourquoi j'ai pris ça? Ben, je ne sais même plus. Ah oui, faire appel. En fait, comme je disais tout à l'heure, je le rappelle, c'est pas notre responsabilité que le monde se perde ou que ton voisin se perde, mais c'est leur responsabilité ou sa responsabilité de faire appel à Dieu. Tu as annoncé l'évangile, tu as... c'était quoi le deuxième point? J'ai oublié. Tu as, voilà, la personne, tu t'es assuré qu'elle entende, qu'elle écoute cet évangile, quelle est la foi? Eh bien, tu peux lui dire, tu sais, maintenant pour être sauvé, avoir la vie éternelle, eh bien, tu peux faire cette prière. C'est ta responsabilité. C'est pas la mienne, mais c'est la tienne. Moi, je t'accompagne. Je suis un peu le médecin accoucheur. Mais c'est ta responsabilité. Tu peux faire ça, toi. C'est ta responsabilité. Si t'es pas prêt, tu le fais plus tard. Donc voilà, nous, coulis la vie. Une fois que notre travail est là, bien sûr, on accompagne. Mais retenons cette idée-là. Donc là, le verset 14, la dernière question était dédiée. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà, dernière étape du salut, faire appel. Oh Seigneur, qu'il y ait plein de gens qui fassent appel à toi. Permets-nous, bien sûr, d'annoncer l'évangile au préalable. Responsabilité personnelle, à toi de demander. Ne te plains pas que Dieu n'agit pas, mais demande qu'il agisse. Demande qu'il soit à l'œuvre dans ta vie. Dans une conversation, donc invité, défi numéro 4, une personne a demandé. Fais-le toi. Voilà, nous on est là dans l'amour. On veut aimer tout le monde, respecter tout le monde, honorer qui nous devons honorer. Petit résumé de ce que je partage ce soir. Annonce du salut. Donc Dieu est généreux. Le festin dans sa maison, dans sa présence. Quatre questions cruciales. Comment feront-ils appel? Comment croiront-ils? Comment entendront-ils? Comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas d'envoyé? Chacun a un rôle à jouer. Peut-être tu peux dire, bah moi c'est plus dans... J'aime bien accompagner les gens quand ils font dans la prière. J'aime bien encourager les gens à croire. J'aime bien m'assurer que l'évangile est compris, expliquer l'évangile. J'aime bien annoncer cet évangile par mon témoignage, par voilà, peu importe, sur Internet ou autre. Tout ça nous montre, nous conduit à quatre défis que je vous propose. Librement. 4, j'ai dit. Allez, allez. Bon, si jamais tu arrives à passer le 4, il ne s'affiche pas. Premier défi, demander à Dieu d'annoncer son salut. Deuxième, demander au Saint-Esprit qu'il ouvre l'intelligence. Troisième, prendre position quant à notre foi. Quatrième, inviter une personne à demander à l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord de relever ces défis ensemble? De dire, Seigneur, aide-moi. Et dans ce texte-là, si le salut il est proposé à tout le monde, eh bien c'est seulement juifs et non-juifs. Dieu est généreux, sa maison est ouverte. Eh bien c'est à nous, c'est à toi, à moi, d'annoncer son salut. D'annoncer son salut sans compétition, sans crainte, mais de le faire. Père Céleste, je te remercie. Parce qu'on a cette promesse extraordinaire en 2019 que si quelqu'un fait appel à toi, quiconque, eh bien il sera sauvé. Il va rentrer dans ton royaume. Il provoquera la joie du ciel. Et Seigneur, j'ai annoncé dans ces diapos là ces 4 défis. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous aider à les relever. Je te demande ton aide. Je te prie que tu parles au cœur de mes frères et sœurs pour que cette semaine, pratiquement, au moins un des 4 défis soit relevé. C'est toi, Seigneur, qui nous rend responsables. La tâche n'est pas trop lourde, puisque ton joug n'est pas trop lourd, mais tu nous rends responsables de cette annonce. Moi, j'ai besoin, Seigneur, à nouveau, d'être qualifié, de me sentir que tu es à mes côtés pour cette tâche-là. Seigneur, il y a des fois, dans ma vie, j'avais plus d'hardiesse pour ça. Ben, justement, que ça puisse revenir, mon amour pour les autres. Et simplement encourager les personnes que je peux rencontrer à faire appel à toi, m'assurer qu'ils comprennent l'Évangile, provoquer peut-être leur jalousie par quelque chose que tu m'as donné et que eux n'ont pas encore. Seigneur, je ne suis pas juif, mais tu m'as donné un héritage qui est aussi complet que les juifs. Je te remercie pour toutes tes promesses. Seigneur, on veut prier pour que dans notre région, pour ceux qui recommencent le travail demain, pour ceux qui vont être dans cette semaine de Kids Game, et bien que ton témoignage à toi soit là et qu'on soit le sel de la terre avec ton esprit. Qualifie-nous, revêt-nous de l'onction du Saint-Esprit pour cela. Père Céleste, je prie en te remerciant au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.